dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
La marche virtuelle organisée la semaine dernière par des associations de producteurs de lait local d'Afrique de l'Ouest et du Centre va-t-elle pousser la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à corriger sa politique en matière de lait local? En tout cas, c'est ce qu'espèrent les initiateurs de cette manifestation. Les débats s'ouvrent dans quelques minutes. Le temps de vous proposer l'analyse du référendum sur la réforme constitutionnelle tenu ce mardi au Libéria. Écoutez notre invité.
Dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Mathias Ompé, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes administrateur du programme de gouvernance politique à Osiwa, Open Society Initiative for West Africa, à Dakar au Sénégal. Le référendum au Libéria doit permettre d'approuver ou non des amendements à la Constitution de 1986. Parmi ces amendements, celui sur la durée du mandat présidentiel de 6 à 5 ans. Cette consultation était-elle opportune et la durée du mandat présidentiel est-elle vraiment un problème pour les Libériens?
Disons que ce problème est sur le tapis il y a longtemps. Ça ne date pas, n'est-ce pas, de l'époque du président Ouya. Disons qu'il y avait déjà eu une tentative par le passé d'amendement de la Constitution qui a échoué. Donc, la durée de 6 ans pour le mandat du président, c'était dû au fait que le Libéria venait de sortir de crise. Et il fallait laisser le temps au premier président élu, parle de la guerre civile, et donc il fallait laisser le temps pour ne pas amener le pays à connaître, n'est-ce pas, comme vous le savez, les conflits qui caractérisent nos élections en général. Et donc ils ont rallongé un peu la durée pour gagner du temps.
Le référendum vise aussi à autoriser la double nationalité, une question très sensible au Libéria, parce que derrière cette question de double nationalité, il y a le problème foncier.
Absolument. Et donc, comme vous le savez, comme vous l'avez si bien dit, la question de la double nationalité est vraiment une question sensible au Libéria, parce que malheureusement, les autochtones et les afro-américains qui composent, si vous voulez, la population libérienne ne se sont jamais finalement harmonisés. Et donc, au Libéria, aujourd'hui, vous avez vraiment le sentiment que vous avez un groupe d'autochtones et vous avez un groupe d'afro-libériens et d'afro-américains. Un peu comme les Ellen Johnson Sirleaf, Ouya est supposé être l'un des présidents, après Samuel Doe, étant autochtone de Libéria.
Et donc, les Afro-Américains qui sont des descendants d'esclaves.
Voilà, qui sont les descendants d'esclaves, mais qui sont, je vais mettre en griffe, les plus éduqués, qui sont les plus nantis, qui ont toujours contrôlé le pouvoir politique au Libéria. Et donc, beaucoup de Libériens, surtout parmi les autochtones, pensent que cette possibilité, n'est-ce pas, de double nationalité pourrait augmenter davantage l'emprise, n'est-ce pas, des Afro-Américains, de descendance afro-américaine sur l'économie et peut-être aussi la politique du pays.
Est-ce que c'est cela qui justifie l'appel au boycott de ce référendum par les principaux partis d'opposition?
Non, ce n'est pas seulement ça. Disons qu'il y a eu quelques désaccords au départ, aussi bien sur le processus d'actualisation de la liste électorale que sur le processus, n'est-ce pas, de sélection d'un nouveau président pour la commission électorale et même également sur la forme du référendum. Le Libéria, c'est l'un des rares pays où on n'accepte pas qu'on introduise devant les citoyens, dans le cadre d'un référendum, un test ayant plusieurs dispositions, plusieurs articles. Et donc, tout le monde s'attendait à ce que, étant donné qu'il y avait plusieurs articles à adopter en même temps, qu'on demande de les reporter et de les organiser un à un. Mais finalement, je crois que la commission électorale a choisi d'avoir des bulletins séparés par question.
Ce que l'opposition souhaitait, c'est qu'il y ait 8 référendums pour les 8 amendements proposés par le pouvoir.
Exactement. Et donc, vous pouvez vous retrouver, après le référendum, que certains ont été rejetés et que d'autres ont été acceptés. Au moins, au Libéria, vous avez le choix, par proposition, de décider si vous acceptez ou non. Et donc, je pense que ce n'est pas mal.
L'opposition soupçonne aussi le président George Weah, qui en est à son premier mandat, de programmer une troisième candidature à travers cette réforme de la Constitution.
Oui, vous savez que dans nos pays, la plupart du temps, malheureusement, lorsque les chefs d'État en exercice initient des opérations, n'est-ce pas, d'amendement ou de changement de la Constitution, en règle générale, c'est pour aboutir, n'est-ce pas, à cette conclusion que ça autorise n'est-ce pas, à se maintenir au pouvoir au-delà des deux mandats.
Et à mettre le compteur à zéro, estime l'opposition libérienne.
Voilà, et à mettre le compteur à zéro. Et donc, je crois que les politiciens libériens et une partie des citoyens libériens sont juste un peu anxieux par rapport à cette éventualité qu'on a déjà connue dans la sous-région.
Et à votre avis, quelle sera l'issue de cette consultation? Est-ce que le oui ou le non va l'emporter?
Disons que le Libéria est un autre pays un peu particulier de ce point de vue, parce que pour que le référendum soit valide, il faut que les deux tiers des électeurs enregistrés votent pour le oui. Une fois encore, c'est la conséquence du fait que le pays est sorti d'une situation de crise et on veut que toute modification de la loi fondamentale soit, si vous voulez, le résultat
d'un large consensus.
D'une grande majorité des populations, exactement. Et donc, l'autre tentative qui a échoué en 2011, c'était dû au fait que le taux de participation n'atteignait même pas les 60%. Et donc, si on va aux élections aujourd'hui et que le taux de participation ne dépasse pas les 66% et que dans ces taux, il n'y a pas au moins 66% qui votent oui, le référendum, par exemple, ne produira pas de résultat. On dira simplement qu'il est infructueux.
Et il sera invalidé.
C'est comme un premier risque. Exactement.
Mathias Oumpé, administrateur du programme de gouvernance politique à Osiwa, Open Society Initiative for West Africa, à Dakar, au Sénégal. Merci.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Et nous allons parler ce soir avec nos invités des difficultés de la filière lait locale en Afrique de l'Ouest et au Sénégal en particulier, fragilisée par le lait en poudre importé d'Europe. Nos invités sont Momar Dao, président de l'Association des consommateurs du Sénégal, Ascosène. Monsieur Dao, bonsoir. Allô, monsieur Dao?
Ah.
Oui, monsieur Dao.
Oui, bonsoir.
Oui, en ligne également de Dakar, Moustapha Diaz, secrétaire général de la Fédération nationale des acteurs de la filière lait. Bonsoir, monsieur Diaz.
Ah, bonsoir, oui, c'est bien ça.
À Ouagadougou, Indatou Amadou, responsable plaidoyer et genre de l'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane, APES, et coordonnatrice régionale de la campagne Mon lait local. Bonsoir, madame.
Oui, bonsoir.
Et je commence par le secrétaire général Moustapha Dia, qui est à Dakar. Les données sur le Sénégal dont nous disposons, monsieur Dia, à partir des articles de presse sur le lait local, indiquent que le lait en poudre représente 84% des importations de lait. Est-ce que ces chiffres sont réels et est-ce que ces données sont aussi actuelles ou elles ont évolué?
Bon, je peux dire que actuellement, si on se réfère aux données statistiques du ministère de l'élevage et des productions animales, je pense que ce chiffre est assez important. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'importation, la consommation du lait importé se situe au niveau de 60% au Sénégal. Actuellement, nous sommes arrivés à réduire vraiment la consommation du lait local, du lait importé de 15-20%.
Donc, c'est-à-dire, ça, ce sont les chiffres de 2018 qui correspondent à l'arrivée massive, à ce que certains des producteurs appellent l'invasion du marché sénégalais par le lait en poudre.
Oui, c'est-à-dire qu'actuellement, la consommation nationale se situe autour de 450 millions de litres de lait. La part du lait local se situe à 220 millions de litres. Donc, ce qui veut dire que ces chiffres sont un peu exagérés de mon point de vue.
D'accord. Madame, je voulais vous demander, Madame Indatou, on situe la grande invasion du marché local sénégalais par le lait en poudre à l'année 2018. Pourquoi cette année? Est-ce qu'il y a une explication? Et votre pays, le Burkina, a-t-il connu la même situation?
Merci beaucoup sur cette question. Je suis d'avis, je suis d'accord avec les données du Sénégal parce qu'il y a eu énormément de prise de conscience des consommateurs par rapport à au lait importé. Si parle de prise de conscience, parle de vraiment d'avoir des informations sur le type de lait qu'ils sont en train de consommer. Il y a eu, avec la campagne « Mon lait est local », beaucoup de communication en direction des consommateurs pour qu'ils comprennent que ce n'est pas tout type de lait importé qui est du vrai lait.
Donc il y a une réduction, comme M. Diallo disait, de la consommation de lait importé en poudre.
Voilà, exact. Je suis très d'accord avec ces chiffres, mais de manière globale pour l'Afrique de l'Ouest, on a constaté, avec les différentes études que nous avons faites, qu'il y a une progression tout de même. Donc cela dépend des pays. Parce qu'en 2018, l'Afrique a importé un type de lait le plus répandu en Afrique de l'Est, qui est la poudre de lait non engraissée à matière grasse végétale, qui est vraiment la poudre la plus rencontrée parce qu'elle est la moins chère. L'Afrique a importé, l'Afrique de l'Est a importé 276 892 tonnes de ce mélange. Soit 24% de plus qu'en 2016 et 234% de plus qu'en 2008. Alors qu'en 2018, ce pourcentage avoisine les 75% de l'exportation de l'UE de poudre de lait et de mélange vers l'Afrique de l'Ouest.
Madame Indatou, ma question était de savoir justement pourquoi 2018 il y a eu cette importation massive. Est-ce qu'il y a une explication qui a justifié cette mesure par les autorités?
Il y a une exportation massive tout simplement parce que tous les pays africains sont déficitaires actuellement en termes de production de lait. C'est-à-dire que la demande en produits laitiers n'est pas en fait comblée. En ce sens que actuellement, on reconnaît que l'Afrique de l'Ouest est de plus en plus une importante région de production de lait. Donc, mais il y a tout de même à souligner qu'il y a un gap en ce sens que la production laitière aujourd'hui locale ne peut satisfaire que 50% de la consommation. Donc, c'est ça, les pays sont beaucoup plus retournés vers l'Europe pour l'importation du lait. Mais ce qu'on oublie deux fois, c'est qu'il y a un potentiel qui est capable de produire ce gap, mais qui n'est pas suffisamment valorisé.
Donc, et voilà, qui n'est pas développé.
Pense que les pays choisissent la voie la plus facile, quoi, en important.
Merci beaucoup. Monsieur Dao, vous êtes là? Allô, monsieur Dao?
Oui, je vous entends, oui.
Voilà, comment appréciez-vous au niveau des consommateurs que vous représentez cette situation que viennent de décrire les acteurs et les producteurs du lait, c'est-à-dire que il y a une forte demande, mais le niveau de production local ne permet pas d'offrir le lait suffisamment aux consommateurs. Mais pour autant, est-ce que pour vous cela justifie cette mesure prise par les autorités d'importer, on va dire, une si grande quantité de lait?
Nous pensons qu'il faut promouvoir la production locale. Promouvoir la production locale, c'est aider à améliorer des stratégies, à mettre en place des stratégies de stockage de ce lait-là, pour permettre vraiment aux producteurs de pouvoir augmenter leur capacité et puis diminuer par conséquent l'importation donc du lait. Alors, il faut savoir que aujourd'hui, le coût de production du lait local est assez élevé et face à ces succès d'années de lait, hein, parce qu'en fait, la plupart des produits qui sont là, c'est des mélanges qui ne peuvent pas être appelés lait, parce qu'en fait, le mot lait, c'est une dénomination contrôlée, c'est la sécrétion mammaire. Maintenant, on a beaucoup de lait.
Ce qui n'est pas le cas du lait en poudre.
Voilà, ce qui n'est pas le cas du lait en poudre, qui est aujourd'hui fait à base donc de mélange, d'additifs, etc. Ce qui n'est pas forcément mauvais hein, pour la santé, mais il faut dire que puisque la dénomination est contrôlée, on ne peut pas appeler lait n'importe quel mélange et n'importe quelle production alimentaire. Hein, je pense que ça, c'est important. L'autre élément important, c'est que Compte tenu donc du fait de cette importation massive de produits laitiers, bon, nos producteurs locaux sont un peu dans une situation où leur évolution est un peu remise en cause du fait que le coût de production est tellement élevé que les consommateurs, qui n'ont pas beaucoup de moyens d'ailleurs, vont se retourner donc vers les produits alimentaires
moins chers que les produits locaux
qui sont importés moins chers.
Monsieur Dia, quelles sont les conséquences de cet état de choses sur les producteurs? Comment vivent-ils cette situation? Monsieur Dia?
Je vous écoute bien.
Oui, allez-y, s'il vous plaît.
Donc, c'est vraiment une léthargie de la production laitière. Donc, aujourd'hui, on est difficilement compétitif dans la mesure où les produits entrent au Sénégal à un prix vraiment largement en dessous du lait local.
Le lait en poudre, dit-on, est 30% moins cher que le lait produit localement.
Voilà, c'est ça. Donc, la commercialisation de ce lait, donc, qui devait pousser à une très forte valorisation, ne peut être possible. Donc, ça veut dire que les communautés qui travaillent sur la production laitière perdent beaucoup de revenus en ce sens. Donc, c'est un appauvrissement.
Mais comment cela, j'allais demander, comment cela impacte, cette situation impacte-t-elle leur vie et sur leur quotidien? Impacte-t-elle leur quotidien?
Aujourd'hui, la mobilité du bétail d'un point à un autre, ce n'est pas uniquement par le fait de la recherche d'une alimentation du bétail, mais c'est plutôt aller dans des zones pour la commercialisation du lait. Et là encore, le volume de commercialisation n'est pas aussi important que ça. Si bien que les producteurs perdent beaucoup de revenus dans la production laitière. Vous voyez, si vous avez par exemple un potentiel de 30 vaches, potentiel de 30 vaches qui peut avoir au moins 6 à 7 vaches laitières, 7 vaches laitières qui produisent du lait, mais il n'y a pas de traite. Parce que tout simplement, quand tu traites, tu n'as pas de marché. Donc c'est juste pour l'autoconsommation. Parce que quand je parle d'une amélioration de la production, c'est justement pour l'autoconsommation, mais c'est pas pour la valorisation du lait local.
Et s'il n'y a pas de si les producteurs n'arrivent pas à vendre, il n'y a pas d'investissement, et s'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'augmentation de capacité de l'offre du lait local.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'une vache qui produit par exemple un litre, elle va continuer à produire un litre, alors que quand on met les investissements nécessaires qu'il faut, elle peut aller jusqu'à 4-5 litres de lait.
Merci beaucoup, Monsieur Dia. On marque une petite pause. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et ce soir, dans votre émission Le Grand Rendez-vous, nous débattons des difficultés que traverse le secteur lait local en Afrique de l'Ouest avec nos invités Moustapha Dia, secrétaire général de la Fédération nationale des acteurs de la filière lait du Sénégal, et Momar Dao, président de l'Association des consommateurs du Sénégal, ASCOSEN, et enfin en ligne de Ouagadougou, Madame Indatou Amadou, responsable plaidoyer et genre de l'Association promotion de l'élevage au Sahel et en savane, et coordonnatrice régionale de la campagne Mon lait est local. Madame Amadou, je voudrais vous demander, on a écouté tout à l'heure Monsieur Dia expliquer que cette situation cause beaucoup de difficultés aux producteurs. Est-ce que certains d'entre eux, faute de pouvoir vendre leur lait, ont fini peut-être par abandonner, aller vers une reconversion?
Merci. Effectivement, on remarque cela. Il y a beaucoup qui nous ont dit qu'ils préfèrent ne pas exploiter le lait parce qu'il n'y a pas de marché, comme le dit Moustapha Dia. Et certains sont vraiment orientés uniquement vers la production de viande. Donc, il y a ça. Mais à côté de cela, nous avons encore des laiteries qui persistent et qui avancent parce qu'ils savent qu'actuellement, l'espoir est permis parce que tout simplement, nous devons signaler aussi qu'il y a une prise de conscience et de responsabilité croissante des États de l'Afrique de l'Ouest avec l'élaboration de l'offensive régionale l'Est de CEDEAO.
Justement, vous avez lancé l'initiative Monlais et Local pour tenter de mettre pression sur la CEDEAO. Mais avant d'en parler, madame, dans votre plaidoyer, vous pointez aussi du doigt le tarif extérieur commun qui, d'après vous, je veux dire les producteurs, serait responsable de l'accès en grande quantité de lait en Afrique de l'Ouest à cause de la bande tarifaire de seulement 5%. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui aux politiciens, aux dirigeants de vos pays respectifs et surtout à la CEDEAO?
Merci beaucoup. Donc, effectivement, par rapport à ce tarif extérieur commun qui ne permet pas de protéger la filière lait locale parce que pour des raisons que vous venez d'annoncer, c'est-à-dire que le lait entre en vac dans des quantités de plus de 25 kg sur la bande tarifaire de 5%. Et on assiste après à un reconditionnement de ce lait dans des petits sachets qui sont distribués partout dans nos pays, accessibles à tout le monde. Donc nous demandons à la CEDEAO effectivement deux principales choses. La première chose, c'est d'assurer le financement de la stratégie de l'offensive lait qui a été élaborée de manière participative et inclusive avec tous les acteurs, notamment d'assurer sa mise en œuvre, la mise en œuvre du programme prioritaire d'investissement qui est issu de cette stratégie de l'offensive lait. Donc la deuxième chose, c'est de demander, en demandant à la CEDEAO de revoir le tarif extérieur commun, effectivement, pour un relèvement de ce tarif extérieur commun afin de protéger la filière locale.
À combien faut-il le relever pour éventuellement faire en sorte que les prix soient équilibrés entre le lait importé et le lait local? À combien faut-il relever ce TEC, là, ce tarif extérieur commun, d'après vous?
Oui, nous adressons particulièrement à un certain type de lait. Parce que ce type de lait dont on a parlé tout à l'heure, qui est le lait qui concurrence énormément la filière locale, c'est le lait réengraissé avec la matière grasse végétale dont vous avez parlé, qui est 30% moins cher. Donc, pour ce type de lait, nous avons proposé un relèvement de 30 à 35% pour pouvoir rééquilibrer les choses. Donc, voilà ce que nous demandons au niveau de ce type de lait, parce que c'est lui qui est l'enjeu principal par rapport à la filière locale.
Et depuis quand vous avez lancé cette initiative Mon lait local, M. Dia disait que la tendance est un peu baissière et que de plus en plus de consommateurs font, on va dire, peut-être des achats militants et comprennent la nécessité d'acheter le lait local. Mais globalement, quel est le bilan que vous ferez de cette opération, madame?
Ouais, nous pensons qu'actuellement, nous sommes dans une phase, en tout cas, de croissance, de consommation du lait local. En ce sens que une de nos cibles, effectivement, c'est les consommateurs pour leur donner assez d'informations afin qu'ils fassent des choix raisonnés dans l'achat de leur lait.
Merci.
Donc, ils ont... Voilà. Donc,
oui, concluez, madame, s'il vous plaît. Après, on écoute M. Ndaou.
Merci.
Oui, concluez vos propos, madame, s'il vous plaît.
Voilà. Donc, actuellement, nous avons un regain d'intérêt, en tout cas, de la part des consommateurs par rapport au lait local. Et c'est encourageant.
Merci. Monsieur Ndaou, est-ce que c'est ce discours-là que vous transmettez également aux consommateurs? Je prends l'exemple ici en France. Le produit fait en France ou produit en France est devenu un argument de vente. Est-ce que, pour vous, c'est une piste qui pourrait peut-être aider à pousser les consommateurs à aller vers le lait local?
Alors, nous avons quand même un dilemme. Hein. Vous savez, le lait réengraissé, c'est du lait dont on a changé la matière grasse butyrique par de la matière grasse végétale. Alors, ce lait, il est moins dangereux par rapport aux maladies cardiovasculaires parce que, vous savez, la matière grasse butyrique, elle n'est pas très, très gentille vis-à-vis donc des maladies cardiovasculaires. C'est la raison pour laquelle les gens ont proposé la fabrication de lait écrémé, etc. Alors, donc, quelque part, c'est pas forcément mauvais qu'il y ait du lait réengraissé, donc, à la matière grasse végétale, sur le plan, donc, de la santé, mais ça concurrence tellement le
problème, c'est la quantité.
C'est
la quantité qui inonde le marché et le prix aussi qui fait que c'est très moins cher.
D'achat, Voilà, le pouvoir d'achat du consommateur est un peu faible donc en Afrique. Les gens ne sont pas prêts à payer aussi cher pour avoir accès au lait. Et c'est ça aussi le grand problème.
Mais qu'est-ce que vous dites finalement à vos consommateurs? Alors, je disais qu'ailleurs, les gens font des achats de... On va dire que, vont au-delà des achats et en font un acte militant en disant il faut soutenir les producteurs locaux. Oui, la réalité est là, le prix du lait importé est moins cher que le lait local, mais du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce lait local puisse être acheté par les consommateurs locaux?
Voilà, il n'y a pas tellement d'offres locales organisées, présentées sous la même forme que le lait importé, c'est-à-dire en briques ou en boîte, etc. C'est un peu la difficulté que nous avons. Alors donc le lait local il est proposé dans des approches soit de lait caillé mais en lait frais c'est pas très présent au Sénégal.
Donc mais qu'est-ce qu'il faut faire alors vous plaidez pour plus de transformation et meilleure présentation de ces produits?
Exactement. Il faut que l'État donc aide les agriculteurs, disons les éleveurs qui le souhaitent, à mettre en place donc des unités de transformation qui seront appuyées par des banques locales, etc. Et une fois qu'on aura une offre de lait, par exemple, si nous avons deux bouteilles de lait écrémé ou deux bouteilles de lait demi-écrémé qui sont proposées, une faite au Sénégal et une importée, à ce moment-là, on va choisir celle qui est faite au Sénégal.
Merci.
Mais ce que vous savez, c'est qu'il y a un autre problème que nous avons, c'est que les produits qui sont proposés ici au Sénégal, donc de lait, disons, importé, ils sont reconditionnés et présentés comme si c'était du lait local. Hein, donc, parce que nous avons du lait liquide qui est fait à partir de lait reconstitué. Nous avons aussi des sachets de lait qui sont reconditionnés, c'est-à-dire que c'est comme si c'était une marque sénégalaise, alors qu'en fait, ce n'est que l'emballage qui est sénégalais.
Tout le reste, il y a une sorte de tricherie dans la présentation.
Voilà, exactement. Merci. C'est même pas de la tricherie, mais il est reconditionné, il les présente et les gens ont l'impression d'acheter du lait local.
Merci, Monsieur Daou. Monsieur Dia, est-ce que les propositions que vient d'évoquer est-ce que ce que vient de dire Monsieur Daou vous parle? Est-ce que vous pensez que c'est des pistes intéressantes à explorer avec le soutien peut-être des États et des autorités de vos pays?
Oui, je pense que c'est ce qu'il faut, parce que nous autres sommes des citoyens et participons au développement de ce pays. Aujourd'hui, l'État sénégalais est sensible à la question de la consommation nationale, surtout que le lait soit une denrée de première nécessité. Je pense que l'État a un rôle à devoir jouer pour permettre, en tout cas, aux producteurs de satisfaire la consommation nationale. Maintenant, sur ce qu'il a dit par rapport au lait bitureux et au lait réengraissé avec la matière, comment dirais-je...
La matière grasse, l'huile de palme parfois, oui.
Voilà, moi je pense que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Parce que, en tout cas pour nous, nous avons des acteurs. Nous, nos grands-parents, ils ont toujours vécu dans la production et la consommation du lait. Nous avons toujours autoconsommé le lait, mais on n'a jamais eu
ce lait en poudre, là.
Maladies cardiovasculaires, du lait local, du lait de vache. Nous n'avons jamais eu de problème avec ce lait de vache en matière de maladies cardiovasculaires. Je pense que c'est important que ce soit que les consommateurs et nous autres producteurs, nous mettons ensemble pour voir la question de plus près. Il y a la recherche qui est là, il y a des tests qui sont possibles. Je pense que c'est important de le faire, parce que ça a été le cas aussi pour la viande. Vraiment, on a des problèmes, en tout cas, on croit difficilement à ces messages-là.
C'est-à-dire que le lait local représenterait des risques pour la santé?
Pour la santé des consommateurs, moi je dis que ça, c'est pas vérifié.
Voilà.
En tout cas, nous avons des acteurs qui ont toujours consommé ce lait-là, mais qui n'ont jamais eu de problème.
L'autre aspect que je voudrais évoquer avec vous, M. Dia, vous défendez également au niveau des producteurs que la filière lait est une, peut créer de nombreux emplois. Alors, comment expliquer que les autorités ouest-africaines et sénégalaises en particulier ne consacrent pas donc plus de soutien et d'attention à cette filière, alors même que des milliers de jeunes meurent en mer, notamment dans votre pays, le Sénégal, en tentant de rejoindre l'Europe faute d'emploi, justement?
Merci pour la question. Je pense qu'aujourd'hui, si on considère le cheptel national sénégalais, au moins 30 à 40% de ce cheptel-là peut produire du lait. Et ce lait-là peut être valorisé en intégrant, l'insertion de ces jeunes et des femmes. Aujourd'hui, l'expérience que nous faisons ici à Namaril, l'expérience qui a été faite là-bas au niveau de la laiterie du berger prouve qu'il y a bien des solutions à faire. Bien que la laiterie du berger ne prend qu'une partie de la production locale. Donc nous, à notre niveau, on prend 100% de la production locale dans notre environnement. Je pense que c'est important que, en tout cas des études, que des échanges soient faits dans ce cadre-là pour permettre, en tout cas, une valorisation de ces lait-là, mais aussi pour permettre une insertion de la jeunesse à l'emploi.
Merci beaucoup. Donc, c'est une opportunité, dites-vous, la filière lait est une opportunité pour juguler l'immigration. Madame, en quelques mois, on va bientôt marquer une pause. Dites-moi, comment est-ce que vous travaillez au niveau de votre collectif, votre association, pour être plus fort et pour mieux vous faire entendre par les autorités de vos pays? Parce qu'on parle quand même de 55 organisations. Allô? Madame Mamadou? On l'a pas. On
oui.
L'a... oui, allez-y rapidement, madame, s'il vous plaît.
Je vous entends entrecoupé.
Non, je disais, comment est-ce que vous travaillez au niveau de votre organisation pour mieux défendre vos intérêts et vous faire entendre au niveau des autorités?
Oui, nous travaillons dans la coalition Mollet et Local avec tous les acteurs pour vraiment identifier les messages clairs à adresser aux politiques. Donc nous avons des coalitions pays au sein desquelles nos plaidoyers sont portés, mais nous avons aussi des coalitions régionales dont le portage politique est assuré par trois organisations professionnelles que sont le RBM, dont Moustapha fait partie, nous avons le ROPA et l'APES, qui sont les interlocuteurs au niveau régional et qui adressent nos messages au niveau de la CEDEAO. Donc c'est comme ça que nous avons procédé au niveau de cette coalition pour pouvoir toucher les différents décideurs politiques.
Merci madame. Et fait entendre votre voix et le plaidoyer que vous faites également. On va à nouveau marquer une toute petite pause. Gardez l'écoute et on se retrouve tout à l'heure.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Le grand rendez-vous sur les difficultés du secteur lait dans les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre avec nos invités Moustapha Dia de l'association de la Fédération nationale des acteurs de la filière lait au Sénégal, Madame Indatou Amadou, responsable plaidoyer et genre de l'association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane au Burkina Faso, Momar Dao, président de l'association des consommateurs du Sénégal. Et je rappelle que le ministre sénégalais de l'élevage que nous avons contacté nous a déclaré que je suis désolé, mais je ne peux pas m'exprimer sur le sujet. Alors, je vais revenir à vous, monsieur Momar Dao. Vous êtes optimiste. Vous disiez tout à l'heure que... c'est plutôt monsieur Dia, pardon, de la fédération. Vous disiez, monsieur Dia, que vous étiez optimiste parce que les consommateurs commençaient à changer leur comportement et acheter de plus en plus de lait local. Mais l'ONG Oxfam s'inquiète au contraire de l'avenir de la filière en déclarant qu'elle a été alertée par des petits producteurs européens qui leur disaient qu'il y avait un stock très important de lait en poudre et ce lait dégraissé avait pour destination les pays d'Afrique de l'Ouest.
Oui, c'est vrai. Oxfam a raison d'avoir...
D'exprimer ses inquiétudes.
D'avoir des inquiétudes. Et même nous avons cette inquiétude. Maintenant, nous sommes en train de travailler pour influencer l'Union européenne. Nous sommes en train de travailler pour influencer la CEDEAO, comme vous l'a dit Indatou. On est ensemble dans la campagne. En tout cas, si l'Europe est en train de travailler pour le développement de l'Afrique, c'est pas dans...
Elle n'est pas dans la bonne direction?
Elle n'est pas dans la bonne direction, dans la mesure où c'est des revenus qui sont perdus au niveau de l'Afrique à travers cette décision.
Mais est-ce que ce n'est pas à vos autorités qu'il faut s'adresser? Est-ce que ce n'est pas au président sénégalais Macky Sall, Burkinabé, Kabore, aux autorités de la CEDEAO?
Oui, il y a un travail qu'il faut faire à leur niveau, mais il y a un travail aussi qu'il faut faire à un niveau régional et à un niveau international. Parce que il y a des accords qui sont signés entre l'Union européenne et la CEDEAO. Je pense que influencer ces accords, c'est important pour soulager un peu la filière laitière africaine de l'Afrique de l'Ouest. Il y a aussi que dans les pays, il y a des efforts à fournir. Je pense qu'au lieu de penser seulement à la satisfaction de la consommation nationale à travers le gap de production, il est important de regarder encore en face que les producteurs laitiers sont aussi des acteurs, sont aussi des citoyens sénégalais pour lesquels il faut avoir quand même un regard.
De l'intérêt et puis les soutenir. Pense, merci.
Voilà, c'est ça. Je pense aussi que la CEDEAO doit travailler à ce qu'au niveau des pays, en tout cas en Afrique de l'Ouest, que la filière laitière locale se développe et promeut ces acteurs.
Merci
parce
beaucoup.
Que tout simplement.
Oui, Monsieur Dia, terminez votre phrase, s'il vous plaît.
Voilà,
rapidement.
Parce que tout simplement, le développement de l'Afrique passe d'abord par la production, par l'agriculture.
Et la production est locale. Merci beaucoup, M. Dia. On donne une minute à M. Ndao. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un grand travail à faire au niveau de la sensibilisation des consommateurs, M. Ndao, pour les pousser à consommer local et à ne peut-être pas regarder seulement le prix, mais à faire, comme je le disais tout à l'heure, un acte militant en disant qu'il faut soutenir la production locale?
Oui, tout à fait. Mais c'est-à-dire que c'est plusieurs actions qui doivent être faites en même temps. Il faut qu'il y ait de l'offre. Or, actuellement, l'offre, elle est marginale. Elle se voit presque pas. Donc, ce qui veut dire que même si les Sénégalais voulaient acheter du lait...
Mais est-ce que ce n'est pas une excuse, Monsieur Ndao? On voit, par exemple, pour le riz a le même problème. Pourtant, le riz local est disponible, mais est moins cher, parfois d'ailleurs, que le riz importé, mais les Sénégalais n'en consomment pas.
Non, le riz local n'est pas moins cher. D'abord, il y a plusieurs choses. C'est que d'abord, c'est plus cher, mais en plus de cela, c'est plus difficile à cuisiner. Hein? Donc, il y a beaucoup de ménagères sénégalaises qui ne savent pas bien cuisiner le riz local. Et ça pose des problèmes parce que quand vous avez du riz qui est étuvé en face d'un riz non étuvé, si le riz est étuvé, il prend moins d'eau, il prend moins d'huile, donc c'est plus économique. Or, le riz qui est fait localement n'est pas étuvé, donc il est plus difficile à cuisiner parce qu'il prend de l'eau, il gonfle, etc.
Merci,
il devient pâteux et tout ça. Voilà.
Merci
donc
beaucoup.
Il y a cela qui fait aussi.
D'accord. Moi, j'ai moi-même ouvert un débat sur le riz. Malheureusement, on n'aura pas le temps de s'étaler dessus. En 40 secondes, Madame Amadou, il y a cette question, je voudrais qu'on termine par là, de Aïssa Tawan qui demandait: quelles sont, d'après vous, les politiques commerciales qui seraient favorables pour la promotion de la filière lait local en Afrique de l'Ouest, en quelques mots? Allô, madame, allez-y rapidement,
merci
s'il
beaucoup.
Vous plaît.
Il y a pour nous deux principales politiques. Oui, allô?
Oui, allez-y.
Oui, c'est le niveau de communication. Voilà. Vous m'entendez, allô?
Oui, madame, on vous entend.
Allô, vous m'entendez?
Oui, madame, allez-y.
Allô? Ok, d'accord. Pour moi, les politiques commerciales sont les deux principales politiques commerciales, c'est des politiques commerciales, surtout les politiques fiscales de porte, pour la fiscalité de porte qui est relative au relèvement du tarif extérieur commun de la CEDEAO, mais aussi une politique fiscale intérieure relative à la TVA, tout ce qui est tarification intérieure, comme l'a fait le Sénégal d'ailleurs, en supprimant la TVA sur les produits laitiers locaux. Donc ce type d'initiative serait vraiment des politiques que les États peuvent prendre pour promouvoir la filière lait locale, donc à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà un peu ce que je pourrais dire par rapport aux politiques commerciales, mais surtout aussi veiller par rapport à l'Europe. Nous interpellons beaucoup l'Europe par rapport à la cohérence des politiques de développement et les politiques commerciales.
Merci
donc
beaucoup.
J'ai entendu tout à l'heure que Oxfam se plaignait s'alarme par rapport à la protection du lait. Je suis tout à fait d'accord parce qu'aujourd'hui nous savons que la CEDEAO plus le Tchad et la Mauritanie exportent 2500 millions de litres de lait par an.
Merci. Merci beaucoup, madame. C'est ici que s'achève ce débat. Très intéressant. Merci à vous et à tout à l'heure.